Si cette intervention modeste, simple reflet d'une recherche en cours, pouvait commencer par la lecture de quelques lignes de la dialectique négative de Théodore Adorno, cela ne choquera sans doute que peu d'entre vous. Si ces mots du philosophe allemand sont en outre cités par l'intermédiaire d'un article écrit par Miguel Abinsour, vous pourrez y voir, avec raison, une manière d'hommage à l'ami disparu. Si enfin, dernière précision, l'article en question a été publié en 2013 dans le premier volume de la revue Illusio consacrée à la théorie critique de la crise, vous ne vous tromperez pas en interprétant ce préambule comme un salut fraternel à nos hôtes et à leur remarquable travail, façon de les remercier ici grandement pour leur confiance comme pour leur chaleureuse invitation. Quelle est donc cette citation d'Adorno donnée par Miguel Abinsour dans son article « Pourquoi la théorie critique ?» Cette simple phrase, extraite de la dialectique négative, est somme toute importante pour esquisser ici une réflexion sur la question de l'utopie après Auschwitz. Vers la toute fin de l'ouvrage, dans un paragraphe intitulé « Apparence de l'autre », Adorno écrit « Le cours du monde n'est pas absolument fermé, ni le désespoir absolu, c'est plutôt ce désespoir qui constitue sa fermeture. » Sans doute le monde n'a-t-il pourtant pas été loin de se clore absolument sous l'effet du désespoir même de ceux qui, jetés dans les camps de la mort dans une indifférence quasi générale, au milieu d'un silence assourdissant, auraient légitimement pu déduire de l'évocation du seul terme d'utopie accolé au nom d'Auschwitz une manifestation éhontée de cynisme. Comme s'il y avait là, au premier abord, une forme d'inconvenance légitime à marquer une persistance de l'utopie après Auschwitz, et l'on pourrait même, tout aussi légitimement, interroger ce « après », l'utopie après Auschwitz, pour se demander s'il n'est pas lui aussi, ou lui déjà, ce « après », une manière d'effacer le souvenir des victimes, celui de leur souffrance. À lire pourtant André Néer dans L'exil de la parole, tout n'est pas si univoque et il est singulier qu'entre les deux passages rapportés dans la citation qui va suivre, le seul auteur mentionné soit précisément Théodore Adorno et sa dialectique négative. Dans cet ouvrage, paru en 1970 et qui porte en sous-titre « Du silence biblique au silence d'Auschwitz », l'auteur écrit donc « Silence d'abord de la cité concentrationnaire, repliée sur elle-même, sur ses victimes et sur ses bourreaux, séparée du monde extérieur par des cercles concentriques de nuit et de brouillard. Cette première forme de silence, cette coupure entre Auschwitz et le monde, aussi infranchissable que l'abîme, jamais elle ne devrait être oubliée lorsque l'on évoque Hiroshima ou Dresde ou Coventry à côté d'Auschwitz dans une même phrase ou dans la même haleine. Ni la comparaison, ni le parallèle ne tiennent. Rien ne peut associer Auschwitz à quoi que ce soit, car là-bas, à Hiroshima, Dresde ou Coventry, les faits ont été bruyants et le vacarme de la douleur a immédiatement atteint et saisi le monde entier. Les communiqués de guerre s'en sont fait gloire ou reproche. Des témoins libres étaient sur place. Des secours efficaces ou inutiles, peu importe, ont du moins accouru instantanément. Alors qu'à Auschwitz, tout s'est déroulé, accompli, consommé, durant des semaines, des mois et des années, dans le silence absolu, à l'écart et à la dérive de l'histoire. Auschwitz est comme un passage fatal entre les récifs. L'aventure millénaire de la pensée humaine y a subi son échec intégral, tout feu éteint, et sans que la lueur d'aucun phare n'en balise la trace. C'est un retour au chaos, où il faut d'abord avoir le courage de pénétrer si l'on éprouve la volonté d'en sortir. Mais peut-être aussi la pénétration à Auschwitz invitera-t-elle la pensée à s'y fixer en demeure et l'incitera-t-elle à se renouveler du dedans, à réaliser enfin ce premier pas, le seul qui soit absolument libre et qui consiste à se créer à partir du néant. Et une page plus loin, Auschwitz est un échec brut, dont l'âpreté absolue est soulignée par ce qu'il eut d'universel. Or, de l'échec d'Auschwitz a jailli l'espérance. Une espérance, selon la belle expression de Tennyson, pleinement humaine, engrangés pour le jour J de notre détresse, et l'étonnement devant l'unicité de l'échec d'Auschwitz ne devrait avoir d'égal que l'émerveillement devant l'unicité de l'espérance que les Juifs ont fait surgir d'Auschwitz comme un printemps né sur les ruines. De cette résurrection, deux grands livres composés en face d'Auschwitz témoignent jusque dans leur titre. « Nous de l'espérance » d'Edmond Flegg et « Le principe espérance » d'Ernst Bloch. Fin de la citation. Pour Miguel Abinsour, grand lecteur et grand éditeur en France d'Ernst Bloch, il en va, semble-t-il, de même. Il faut plonger au cœur des ténèbres et ne rien occulter des souffrances passées pour parvenir à extraire et recueillir les pierres précieuses de l'espérance. Il s'agit de montrer par là, parfois même à son corps défendant, combien l'utopie est indéfectiblement liée à un héroïsme du petit sur lequel nous reviendrons, un héroïsme du petit dont les camps ne furent pas exempts, dont ils ne furent même, aussi ténus qu'en soient les témoignages parvenus jusqu'à nous, jamais exempts, signe d'un esprit de l'utopie qui n'aura en cela aucunement abdiqué. Première partie, donc, l'emprise de la césure. Suivre Miguel Abinsour sur cette voie d'une persistance de l'utopie après Auschwitz, c'est reprendre d'abord un trait biographique mentionné dans son dernier ouvrage publié, « La communauté politique des tous un », soit la découverte, jeune adolescent, dans la bibliothèque de son père, interprète d'allemand au procès de Nuremberg, d'un volume de photographies annexées aux actes du procès et portant sur les camps. Ce livre m'a introduit soudain à un univers insoupçonné qui défiait toute pensée. Je me souviens des photos de déportés dont les regards m'interpellaient comme s'ils arrivaient d'une autre planète. Je me souviens de monceaux, de véritables tas de lunettes de plusieurs mètres de haut, images sensibles des massacres de masse. Ces images ne m'ont jamais quitté. Il y a là, assurément, une césure. Une marque indélébile associée d'une part à l'expérience de la guerre vécue enfant par Miguel Abinsour, avec cette menace permanente de la persécution, et la même césure retrouvée d'autre part dans l'œuvre de Théodore Adorno, dont la réflexion philosophique a pour caractéristique, selon Miguel Abinsour, de se tenir dans un espace entre deux possibles, en l'occurrence ne pas écrire ou écrire des poèmes après Auschwitz. Ce qui signifie que, s'il y a possibilité, elle ne naît que de l'impossibilité même. De là, la nécessité, pour qui donne son accord à cette antinomie, de porter au premier plan une césure sans précédent, d'où il ressort que, après Auschwitz, il n'est plus possible d'écrire de la poésie immédiatement, innocemment en quelque sorte, que la moindre expression poétique doit porter dans sa texture même la trace de cette impossibilité. Donner son accord à cette antinomie, porter au premier plan cette césure sans précédent dont les manifestations sont assurément sensibles elles aussi, Miguel Abinsour le fit assurément dans l'ensemble de son œuvre. Rappelant ainsi dans quelles conditions il découvrit tardivement, après 1985, la pensée d'Emmanuel Lévinas, et cela à l'occasion d'un travail d'édition sur le livre de Pierre Leroux « De l'humanité », il précisait « Il y a deux manières de faire de la philosophie et deux sortes de philosophes par conséquent. Il y a ceux qui enchaînent des phrases à l'intérieur de l'histoire de la philosophie. Pour ceux-ci, les événements du monde sont réduits à l'état de circonstances ou de contexte. Et il y a ceux qui ne peuvent pas enchaîner, qui, confrontés à l'histoire de l'humanité, ne peuvent plus enchaîner. Pour ceux-ci, certains événements créent comme une sorte de vide ou de césure. À l'évidence, je me situe dans la deuxième catégorie. Et là, je pense que, aussi bien Adorno que Lévinas, sont des penseurs qui ont travaillé en permanence sous l'emprise de la césure. Comment traverser dès lors l'expérience de cette césure? Comment vivre avec cette césure ou vivre habité par cette césure, être sous son emprise et parier dans le même temps sur l'utopie, sur sa persistance? Dans le récent numéro de la revue Ligne consacré à Miguel Abinsour et intitulé « La sommation utopique », Irwin Wolfhart cite le discours de Brême de Paul Celan. « La langue traversa et ne trouva pas de mots pour ce qui se passait, mais elle traversa ce passage et put enfin ressortir au jour, enrichie de tout cela. » Et Irwin Wolfhart précise « Enrichi, appauvri, meurtri, le mot utopie a lui aussi traversé une dévastation inouïe et la traverse encore, mais la chose, elle, reste indestructible. Ce caractère indestructible de l'utopie participe assurément d'une posture, d'un engagement du corps comme de l'esprit à en guetter les manifestations sensibles les plus ténues, les moindres gestes à relever pour mieux les déployer dès lors, les faire exister au jour au sortir de leur souterraine dérive. Il y va là, nous dit Miguel Abinsour, d'une sommation utopique, expression paradoxale, voire surprenante, et sur laquelle nous reviendrons, une expression qui semble apparaître dans son œuvre vers 2004 et dont pourrait déjà rendre compte, s'agissant de son cheminement progressif dans ses écrits aux répétitions stratifiées, l'extrait d'un entretien fait avec Miguel Abinsour pour la revue Europe, entretien intitulé « L'utopie au risque de l'incandescence », et où je l'interrogeais en premier lieu sur sa propre conversion à l'utopie. Difficile de déterminer quels sont les événements fondateurs, les rencontres qui ont entraîné cette conversion à l'utopie. Le choix de l'utopie, comme tout choix d'objet, reste pris dans une certaine opacité qui résiste à l'élucidation. Si j'essaie de m'aventurer dans cette voie, il me semble que la guerre, la conscience progressive de la catastrophe, la Shoah ne sont pas étrangères à ce choix. Cette hypothèse m'est plus ou moins apparue quand je suis allé, il y a quelques années, faire une conférence sur la persistance de l'utopie à la Maison des enfants d'Izieux. Comme si le rappel de ces vies anéanties, de ces enfants déportés et assassinés à Auschwitz, suscitait, aussi surprenant que cela puisse paraître, un appel de l'utopie ou vers l'utopie. N'avais-je pas été sollicité quelques années auparavant pour écrire un texte sur la Shoah? N'avais-je pas tenté en vain de donner un essai sur l'utopie après la Shoah? De même qu'Adorno a déclaré qu'on ne pouvait plus écrire de poèmes après Auschwitz, fallait-il considérer qu'on ne pouvait plus concevoir ni écrire d'utopie après la catastrophe? À dire vrai, la position d'Adorno est de loin plus complexe que celle qu'on lui attribue. Car s'il faut prendre acte de cette impossibilité d'écrire des poèmes après Auschwitz, afin d'éviter de produire une culture creuse et qui soit une injure aux victimes, il n'en faut pas moins écrire des poèmes aussi longtemps qu'il existe une conscience de la souffrance parmi les hommes. Écrire des poèmes en se heurtant dans l'écriture même à l'impossibilité d'en écrire. Dans le cas de l'utopie, il semblerait à première vue que la catastrophe, l'édification d'un univers infernal est ruinée à tout jamais les espoirs qui portent l'utopie, comme si le complexe infernal des camps qui n'a plus rien d'une topie avait été le plus grand démenti infligé à l'utopie et à son principe espérance. Mais au-delà de cette première évidence, ne perçoit-on pas plus secrètement la venue d'une sommation utopique, d'autant plus impérieuse qu'elle est indissociable du nouvel impératif que l'enfer ne se répète pas alors que les génocides n'ont pas cessé. C'est seulement une pensée capable, non de refléter ce qui existe, mais de concevoir une société autre, un tout autre social, sous le signe de l'humain, qui est susceptible de porter en elle la chance d'une sortie de cet enfer où quelque chose de pire que la mort doit être redouté. N'est-ce pas à une pensée de l'utopie qui se constitue de s'affronter à l'impossibilité de l'utopie qu'il convient de remettre, de confier cette chance, comme nous y invitaient déjà certaines victimes sur le seuil de cet enfer. Fin de citation. J'en viens à la deuxième partie, paradoxale sommation. La formulation première de cette idée d'une sommation utopique apparaît donc d'abord chez Miguel Abinsour dans le strict contexte de l'œuvre d'Adorno. Et s'il importe ici d'en reconstituer autant que faire se peut la généalogie, c'est que son extension progressive à d'autres auteurs pris tous ensemble ces dernières années dans une même constellation, Théodore Adorno, Charles Fourier, Emmanuel Lévinas et Thi Hilzum, traduit une construction où importe en premier lieu, c'est en tout cas l'hypothèse que nous voudrions avancer, la mise en valeur d'un héroïsme du petit. Pour Miguel Abinsour, réplique inventive à la dialectique de la raison, l'utopie doit toujours s'engager dans une auto-réflexion critique pour mieux rechercher et investir les points aveugles susceptibles d'engendrer une inversion de l'émancipation, un renversement de la liberté en servitude, manière de penser contre elle-même afin d'ouvrir des lignes de fuite. Mais inversement, et s'agissant d'une réflexion à partir de la réalité d'Auschwitz, où paradoxalement, et pour reprendre des termes d'Adorno, le monde apparaît à la fois pire que l'enfer et meilleur, peut naître là, peut naître de ce lieu-là qui n'en est pas un, une sommation utopique d'un type nouveau, où émergerait, provoquée par l'événement, la vérité de la conscience utopique, à savoir la négation de la mort. À ce stade de sa réflexion, c'est bien l'œuvre d'Adorno qui, pour Miguel Abinsour, a pour particularité d'être le siège d'une sommation utopique inédite, qui trouve dans la souffrance extrême non un fondement, mais une impulsion historique spécifique. Toutefois, est immédiatement associée à cette persistance singulière de l'utopie, dans les mêmes articles, est-elle une figure possible de cette nouvelle sommation utopique ? L'œuvre et le nom de Charles Fourier, mentionné par Adorno dans sa conférence radiophonique de 1966, éduqué après Auschwitz. Un premier paradoxe associé à la sommation utopique pensée par Miguel Abinsour consisterait donc en la présence du nom emblématique de Charles Fourier, à l'antijudaïsme pourtant avéré, dans ce complexe tissé par Adorno lui-même entre Auschwitz et la persistance de l'utopie après Auschwitz. Bien qu'il ait préfacé la traduction allemande à la théorie des quatre mouvements la même année 1966, justement, Adorno était pourtant moins familier de la pensée de l'utopiste que son ami Walter Benjamin, mort en septembre 1940, avant Auschwitz donc. C'est pourtant un retour vers Walter Benjamin qui pourra peut-être expliquer cette conjonction de la sommation utopique et des noms d'Adorno et de Fourier mis en valeur, soulignés à plusieurs reprises et dans plusieurs articles par Miguel Abinsour. Au printemps 2006, Miguel Abinsour publie dans la revue Mortibus un magnifique article intitulé « Persistante utopie » et dont la dédicace est la suivante « Aux enfants et aux éducateurs d'Izieux arrêtés le 6 avril 1944, déportés et exterminés à Auschwitz ». Comme le fit cependant remarquer Michel Hénaudeau à son interlocuteur dans le grand entretien publié en 2014, l'article ne s'intéresse qu'à l'utopie et ne dit pas un mot de ce à quoi la dédicace renvoie. L'allusion à Auschwitz y est pourtant bien claire lorsque Miguel Abinsour désigne derrière l'expression « persistante utopie » une impulsion obstinée, tendue vers la liberté et la justice, entendons la fin de la domination, des rapports de servitude et la fin des rapports d'exploitation, qui, en dépit de tous les échecs, de tous les désaveux, de toutes les défaites, renaît dans l'histoire, refait jour, qui au plus noir de la catastrophe se fait entendre, résiste comme si la catastrophe même suscitait une nouvelle sommation. Entendons que chaque catastrophe, et pas seulement Auschwitz en dépit de son unicité absolue, suscite une nouvelle sommation, une lutte toujours reconduite et dont l'histoire est le théâtre, une lutte des hommes à la recherche de l'altérité. Or, l'allusion qui suit dans l'article est un indice. Je cite « Ce qui est une autre manière d'affirmer, à l'exemple de Walter Benjamin, qu'un pacte secret a été conclu entre les générations passées et la nôtre, la persistance de l'utopie, on le voit, ne tient pas tant dans la poursuite répétée d'un contenu déterminé que dans un mouvement toujours renaissant vers la chose indéterminée, susceptible de recevoir plusieurs noms dans l'histoire et qui a pour vertu insigne de réveiller les hommes, de les arracher à l'acceptation de l'ordre établi qui, jusqu'au moment de l'éveil, paraît aller de soi. » Où se trouve chez Walter Benjamin l'allusion à ce pacte secret, à cette entente tacite entre les générations passées et la nôtre ? À la fin de la deuxième des thèses sur le concept d'histoire, dont la version écrite en français par Walter Benjamin est la suivante. C'est donc à nous de nous rendre compte que le passé réclame une rédemption dont peut-être une toute infime partie se trouve être placée en notre pouvoir. Il y a un rendez-vous mystérieux entre les générations défuntes et celles dont nous faisons partie nous-mêmes. Nous avons été attendus sur cette terre, car il nous est dévolu à nous comme à chaque équipe humaine qui nous précéda une parcelle de pouvoir messianique, le passé la réclame, a droit sur elle, pas moyen d'éluder sa sommation, l'historien matérialiste en sait quelque chose. Autrement dit, le geste de Miguel Abinsourd pour mettre au jour une sommation utopique d'un type nouveau, né au cœur même de l'expérience catastrophique d'Auschwitz, consiste en un geste d'actualisation du sauvetage rendu possible à chaque fois par la sommation du passé à l'endroit de notre faible force messianique, dans un présent à chaque fois singulier, là où l'air aura été respiré par nous, pour reprendre les mots de Benjamin. Un autre lien établi entre la sommation utopique et Walter Benjamin devrait nous permettre par ailleurs de préciser en quoi cette sommation utopique a à voir avec une posture précise, et notamment celle dépeinte par Miguel Abinsourd de Walter Benjamin en guetteur de rêve. Dans son article de 2010 intitulé « La conversion utopique », Miguel Abinsourd donne comme exemple de cette dialectique spécifique de la remémoration orientée vers l'émancipation le rapport de Benjamin à Fourier, auquel il arrache l'idée de jeu pour élaborer sa doctrine ésotérique sous le signe de la réconciliation avec la nature. Se laisse voir là, pour Miguel Abinsourd, un enjeu politique qui consiste à laisser naître du présent ainsi immobilisé, de l'urgence du présent au moment du péril, la sommation utopique qui prêtera au guetteur de rêve un regard de lynx, tel qu'il puisse discerner dans l'autrefois à coup sûr le point où intervenir, où briser la coque et ouvrir la voie au sauvetage. Ainsi, la sommation utopique confère-t-elle au guetteur de rêve un regard de lynx, de ces regards sauvages, prompts à se saisir d'une proie in extremis, par un geste aussi bien furtif qu'éphémère et unique, un tour de main ultime où prime la sensibilité la plus fine à l'innervation, à l'air qui aurait été respiré par nous. Ce qui vaut alors pour Walter Benjamin en exil, vaut assurément aussi pour Theodor Adorno confronté à l'ampleur du désastre. Au moment du péril, je cite Abinsourd, au moment du péril, face à la catastrophe qui fait retour dans le présent, il s'agit de s'emparer de l'utopie de Fourier, de la faire exploser pour mieux dissoudre l'ambiguïté qui l'affecte et en libérer la force de sauvetage ainsi que sa teneur de vérité. Le regard de lynx, exalté par la sommation utopique, c'est aussi l'écoute tendue vers la moindre adresse lancée par cette sommation utopique, et le paradoxe n'est pas ici moindre. Ce qui nous somme d'intervenir, ce qui nous somme d'agir peut toucher à l'inaudible, à ces voix sous la cendre, à ces gestes modestes à peine tangibles et si peu visibles, mais où se loge pourtant l'opposition irréductible à toute clôture, à toute fermeture par le désespoir. Dans un récent entretien accordé à Manuel Cervera Marzal, Miguel Abinsourd redisait combien nous sommes aujourd'hui toujours, ou aujourd'hui encore, confrontés à une sommation utopique qui n'est plus associée à la seule Shoah, et qui nous intime toujours autant d'agir devant quantité de situations terribles. Mais il précisait, s'agissant de cette sommation utopique, évidemment, vous l'entendez ou vous ne l'entendez pas. Troisième partie, l'héroïsme du petit. Voir ou ne pas voir, entendre ou ne pas entendre, saisir ou laisser passer la chance d'interrompre le cours de l'histoire, assurément la faible force messianique qui nous échoit comme à chaque génération fait signe vers le choix du petit, vers des postures, des gestes ou des actes liés à la remémoration et capable à cet égard, comme l'écrit magnifiquement Michael Levy, de rendre non close la souffrance apparemment définitive des victimes du passé. Ce sont ces postures, ces gestes, ces actes que nous souhaiterions saisir ici sous l'espèce d'un héroïsme du petit associé à la sommation utopique. Une remarque récente de Miguel Abinsourd déterminera un premier espace de réflexion. Je m'intéresse beaucoup à la question de l'héroïsme politique, mais en même temps je m'intéresse au petit, alors que l'on a plutôt tendance à penser l'héroïsme du côté de la grandeur. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il n'y a pas aussi un héroïsme du côté du petit, ce qui impliquerait de concevoir une forme inédite d'héroïsme. Quelle pourrait donc être cette forme inédite d'héroïsme ? Au moins deux réponses peuvent être tentées, ou plutôt la conjonction de ces deux réponses. L'héroïsme du petit serait d'une part un héroïsme de l'écart, du déplacement, fût-il infinitésimal, vis-à-vis de ce qui paraît aller de soi sous le nom écrasant de réel. Et d'autre part, cet héroïsme lié au mouvement ne serait nullement un héroïsme du se tenir à l'écart ou du se placer en retrait, mais tout à l'inverse, un héroïsme tourné vers l'autre, l'héroïsme d'une dédicace à l'autre, à l'altérité. Double mouvement d'écart et de conversion du regard, donc, non pas un repli sur soi, mais une ouverture à l'autre, ce mouvement infini d'ouverture à l'autre qui est le propre de l'utopie. Je cite Abinsour, « Le propre de l'utopie n'est-il pas plutôt que de proposer un ordre nouveau, de procéder à un déplacement de ce qui est et qui paraît aller de soi, sous le nom écrasant de réel ?» Déplacement du réel, autrement dit, l'hypothèse utopique aurait pour fonction de soulever la pesanteur du réel, sa massivité, sa compacité, de telle sorte qu'elle le rende soudain problématique, qu'elle le prive de son absoluité sous le nom d'horizon indépassable, et laisse entrevoir, à travers le prisme de cette problématicité, au cœur de cette évasion, une pluralité de possibles. Le premier de ces mouvements apparaît notamment dans la conversion utopique où Miguel Abinsour suit l'œuvre de Charles Fourier pour appréhender, selon ses termes, le tempo de la conversion. Chez Fourier, cette conversion s'effectue en deux phases étroitement reliées l'une à l'autre. Le moment philosophique du doute absolu appliqué à la civilisation, c'est-à-dire à sa nécessité, à son excellence et à sa permanence, et le moment proprement utopique qui se déploie sous forme d'un mouvement d'écart absolu. Ces éléments, propres aux rêveurs sublimes, aux princes des utopistes, comme l'appelait Miguel Abinsour dans sa thèse, et qui ne cessera d'être présent d'ailleurs en filigrane dans presque tous ses travaux, ont ici pour particularité d'être immédiatement suivis par des réflexions consacrées à Emmanuel Lévinas, mais où ce dernier, chose rare pour être notée, ne rencontre pas une adhésion immédiate. Dans sa préface à la traduction française de l'ouvrage de Martin Buber, « Utopie et socialisme », dont la lecture en anglais fut fondamentale pour Miguel Abinsour et sa conception de l'utopie, Lévinas salue certains actes de résistance et du martyr osés dans notre monde au nom de l'humain pur, de l'humain utopique, contre l'efficacité des pouvoirs et des puissances. Or, s'interrogeant sur la naissance de l'humain utopique, voir le titre, je vous montrerai après, de ces utopiques 2, l'homme est un animal utopique, Miguel Abinsour réplique « La naissance de l'animal utopique se limite-t-elle à des actes de résistance et de martyr ? Si l'on pose la question du comment, n'est-on pas plutôt porté à explorer une constellation complexe, faite de gestes, d'attitudes, d'élaborations philosophiques qui va bien au-delà de la résistance ou du martyr, en ce qu'elle se constitue à bien y regarder, même dans des problématiques distinctes, sous le signe de l'éveil. Autrement dit, l'héroïsme du petit plutôt que l'héroïsme en grand, la faible force, celle de l'écart ou du doute absolu, celle du déplacement et du mouvement continu, plutôt que l'opposition courageuse mais grandiloquente, soit une forme de sobriété, de fragilité assumée au revers desquelles s'affirment des formes singulières de plasticité ou de fluidité. Je cite Abinsour, « Une fois que l'on a bu à la coupe du déplacement utopique, tout enfermement, toute installation dans un lieu devient inconcevable. Les utopies qui privilégient le déplacement du réel au point d'y voir la quintessence de l'utopie font paradoxalement du lieu de nulle part leur séjour jusqu'à sortir du réel en tant que tel et se mettre en quête d'un autrement que le réel, sous le signe, faute de mieux, de la plasticité et de la fluidité. Comme si la persistance dans la persistance de l'utopie consistait, une fois le déplacement opéré, à se soustraire à toute pétrification, à toute coagulation en un nouveau réel, et à se tenir dans un élément qui, par sa fluidité même, par sa plasticité, permette de résister à tout processus de réification, de constitution d'un nouveau réel, d'un nouvel emprisonnement dans le réel. Comme si, Persister pour l'utopie signifiait prendre acte de sa fragilité, du caractère éphémère et cependant interminable des lignes de fuite couvrent des brèches. Se retrouve là sans doute, derrière ces mots magnifiquement portés par Miguel Abinsour, une figure mise au jour par Catherine Chalier dans l'œuvre de son amie, celle de l'utopie sous le signe d'Abraham, soit l'utopie pensée dans le registre de la séparation. Dans l'article qu'elle lui consacre, et même si elle précise en conclusion que les socialistes utopistes ne se risquaient pas à faire l'éloge d'une utopie sous le signe d'Abraham, surtout pas Fourier, assertion que Miguel Abinsour semble s'appliquer à démentir dans ses textes, et cela à plusieurs reprises, elle livre une analyse précise qui nous amènera au second mouvement constitutif à nos yeux de l'héroïsme du petit, celui tourné vers l'autre. Catherine Chalier y affirme à cet égard. Le mouvement de l'utopie va maintenant pouvoir se lire dans l'optique d'Abraham. Celui-ci, en effet, en quittant sa terre natale, sous l'injonction de Dieu et dans un mouvement sans retour, se doit d'avancer à la fois vers une terre promise et vers lui-même. Telle est en effet la signification de l'ordre qui lui est donné, « Va vers toi-même ». Aller vers soi-même et aller vers la terre promise sont donc indissociables dans la Bible. Or, aller vers soi-même implique une séparation d'avec tout lieu d'enracinement, utopie donc, et l'ouverture au désir d'un ailleurs. La séparation est ici sous le signe de la vie, du risque et de l'espérance. Placée sous le signe d'Abraham, cette utopie ne correspond-elle pas à cet éveil relevé par Miguel Abinsour dans les analyses serrées de la pensée d'Ernst Bloch par Emmanuel Levinas, l'éveil d'une autre figure de la subjectivité débarrassée de tout ce que, sous l'emprise de l'ordre établi, elle avait incorporé ou intériorisé, soit l'éveil précisément de l'humain utopique? Et cet humain utopique, où se fait jour le renoncement à la primauté du moi et à sa volonté hégémonique, ne caractérise-t-il pas l'utopie non pas en tant que projet intentionnel, mais tout à l'inverse, épreuve non intentionnelle du pour l'autre, épreuve redoublée car l'utopie en tant qu'avenir d'utopie est dédicace à l'autre. Situé du côté de la rencontre, issue de la proximité, du fait du prochain, œuvre d'une subjectivité d'un sujet qui, pour reprendre les termes de Lévinas, ne revient pas à la tension sur soi, au souci d'être, subjectivité comme dédicace à un monde à venir, cette utopie vient donc au jour dans l'héroïsme du petit en tant qu'il est cet écart modeste du même geste tourné vers l'autre. Dans sa lecture de la conférence d'Adorno « Éduqué après Auschwitz », lecture où elle oublie au passage Fourier, Orietta Ambrosi l'indique avec force s'agissant des possibilités concrètes de résistance évoquées par le philosophe de Francfort et que l'on doit pouvoir trouver, par exemple, je cite, « dans la petite résistance d'un geste singulier et spontané, un geste au-delà de tout geste, surgissant dans l'instant de compassion. Ce n'est pas en grand qu'on peut briser l'oppression, trouver une brèche, un espoir pour ceux qui sont opprimés et étreints par la souffrance, mais dans la modestie de ces minima moralia, dans la compassion cherchant à alléger de quelque façon la souffrance de l'autre homme comme de l'animal. Seulement, comment aller vers soi-même, c'est-à-dire vers l'autre, quand tout devient compacité, quand toute la souffrance alentour tend à fermer, à clore le cours du monde. J'en viens à la dernière partie, des mains qui s'agitaient comme celles des noyés. C'est l'extrait d'une phrase de lettre d'Etty Hillesum qui décrit les wagons de déportés qui partent pour Auschwitz et les mains des déportés qui s'agitaient comme celles des noyés. Les noms d'Adorno, de Fourier, de Lévinas, diversement et communément associés à la sommation utopique inédite audible après Auschwitz, ces noms ouvrent sur des œuvres, des textes, des pages mentionnées et citées. À ces noms, un autre, celui d'Etty Hillesum, s'ajoute parfois, et ce jusqu'au dernier texte de Miguel Abinsour, sans que jamais, sauf erreur de ma part, ces écrits ne soient mentionnés. Un nom est ainsi posé, simplement déposé, délicatement prononcé, telle une césure ineffaçable valant pour elle-même. Qu'en dit par exemple Miguel Abinsour dans « Persistante utopie » ? Les camps de la mort, les camps d'extermination, la Shoah dans son unicité, Les génocides qui ont suivi, dans leur égale spécificité, n'ont-ils pas mis fin à tout jamais à l'utopie, à sa persistance, à l'idée même d'utopie? Si l'on se tourne vers E.T. Hillsum, vers Lévinas, vers Adorno, il semblerait que non. Au lieu que la catastrophe infirme à tout jamais l'idée d'utopie, sa persistance, elle, lui redonnerait paradoxalement une nouvelle vie. Au lieu que la catastrophe infirme à tout jamais l'idée d'utopie, sa persistance, elle lui redonnerait paradoxalement une nouvelle vie. Car de la catastrophe même surgit une nouvelle sommation utopique, le plus jamais ça se traduisant aussitôt par l'exigence de l'utopie. Et de poursuivre quelques lignes plus loin, de la catastrophe naîtrait donc cette nouvelle sommation utopique qui, à notre corps défendant, redécouvrirait le point névralgique de l'utopie, la suppression de la mort. Mentionné comme en passant par Miguel Abinsour, se profile ici un élément capital et qui, d'une certaine manière, éclaire plus encore le terme paradoxal de sommation dans l'expression sommation utopique. Celle-ci peut advenir en effet à notre corps défendant. Autrement dit, s'imposer à nous, et cela par-delà toutes nos défenses et tous nos conditionnements, par-delà toutes nos peurs et toutes nos réserves. À l'image de la langue de Paul Celan, la sommation utopique pourrait ainsi traverser, sans doute ne pas trouver de mots pour ce qui se passe, mais enfin traverser pour ressortir au jour enrichi de tout cela à notre corps défendant. Il faudrait bien évidemment pouvoir déplier ce motif dû à notre corps défendant, montrer ses rapports probables avec le joueur et la figure de l'innervation chez Walter Benjamin, c'est-à-dire aussi avec l'improvisation et le motif de l'enfance dans son œuvre. Dire ce qui s'impose ainsi à nous en tant qu'il nous tourne presque involontairement vers l'autre, vers la dédicace à l'autre, et combien ce chemin est précisément celui qui, à notre corps défendant, ferait l'accès à une persistante utopie dès lors placée, Miguel Abinsour y insiste, sous le signe de la non-souveraineté, une utopie émancipée de la crampe de la souveraineté. À notre corps défendant, c'est-à-dire loin de toute grandiloquence ou de tout égoïsme, l'héroïsme du petit s'incarnerait dès lors sans doute au mieux dans la figure de l'enfance, dans ses gestes fragiles et peu assurés, dans son détachement de toute souveraineté prise en mauvaise part, dans ses écarts permanents qui le mènent d'ouverture en ouverture vers l'inconnu, sommation adressée à l'autre, désir impérieux d'une altérité toujours redécouverte, modèle d'une dédicace à l'autre qui ne serait donc en vérité et à notre corps défendant d'adulte que dédicace de l'enfance à l'enfance, à l'image de cette persistance dans la persistance de l'utopie qui n'offre elle aussi que des brèches d'incessantes lignes de fuite. Mentionné, puis aussitôt escamoté, c'est avec E.T. Hillsum que je souhaiterais suspendre désormais ce parcours trop rapidement brossé. Ses journaux, ses lettres pourraient être abondamment cités et à l'évidence, la force morale qui est la sienne du fond de sa baraque, au milieu du camp de Westerbork, elle sera assassinée à Auschwitz en novembre 1943, est une manière d'incarner la sommation utopique dont nous parle Miguel Abinsour, cette force de l'éveil tenace face au pouvoir de la résignation, cette dédicace permanente à l'autre qui est aussi et dans le même temps accomplissement de soi. Sans doute un passage de son journal, nous sommes en mai 1942, peut retenir l'attention. Impression d'hier soir dans ma petite chambre. Je m'étais couché de bonne heure et, de mon lit, je regardais au dehors par la baie ouverte. On aurait dit, une fois de plus, que la vie avec tous ses secrets était tout près de moi, que je pouvais la toucher. J'avais l'impression de reposer contre la poitrine nue de la vie et d'entendre le doux battement régulier de son cœur. Et j'étais étendu entre les bras nus de la vie et j'y étais en sécurité, à couvert. Et je pensais, comme c'est étrange, c'est la guerre. Il y a des camps de concentration. De petites cruautés s'ajoutent à d'autres cruautés. En passant dans les rues, je peux dire de beaucoup de maisons, ici un fils est en prison, là le père est retenu en otage, ici encore on a à supporter la condamnation à mort d'un fils de 18 ans, et ces rues et ces maisons se trouvent tout près de chez moi. Je connais l'air traqué des gens, l'accumulation de la souffrance humaine, Je connais les persécutions, l'oppression, l'arbitraire, la haine impuissante et tout ce sadisme. Je connais tout cela et je continue à regarder au fond des yeux le moindre fragment de réalité qui s'impose à moi. Et pourtant, quand je cesse d'être sur mes gardes pour m'abandonner à moi-même, me voilà tout à coup reposant contre la poitrine nue de la vie, et ses bras qui m'enlacent sont si doux et si protecteurs, et le battement de son cœur, je ne saurais même pas le décrire, si lent, si régulier, si doux, presque étouffé, mais si fidèle, assez fort pour ne jamais cesser, et en même temps si bon, si miséricordieux. Tel est une fois pour toutes mon sentiment de la vie, et je crois qu'aucune guerre au monde, aucune cruauté humaine, si absurde soit-elle, n'y pourra rien changer. » Ou ce bref extrait plus tardif, daté de septembre 1942, Jopy, qui était un de ses amis, était assis sur la lande, sous le grand ciel étoilé, et nous parlions de nostalgie. « Je n'ai aucune nostalgie, dit-il, puisque je suis chez moi. » Pour moi, ce fut une révélation. On est chez soi. Partout où s'étend le ciel, on est chez soi. En tout lieu de cette terre, on est chez soi, lorsqu'on porte tout en soi. Je me suis souvent senti, et je me sens encore, comme un navire qui vient d'embarquer une précieuse cargaison. On largue les amarres, et le navire prend la mer, libre de toute entrave. Il relâche dans tous les pays, et prend partout à son bord ce qu'il y a de plus précieux. On doit être sa propre patrie. Ces deux extraits, ces deux manières de résister à la tentative d'ériger le désespoir en absolu, ces deux façons d'être en quelque sorte au cœur de l'héroïsme du petit, difficile de ne pas les rapprocher d'un texte de Théodore Adorno si souvent évoqué par Miguel Abinsour au sujet de l'utopie, le fameux paragraphe sur l'eau des Minima Moralia dont je vous livre pour finir un court passage. Rien faire comme une bête, se laisser aller au fil de l'eau et regarder tranquillement le ciel, être rien de plus, sans autre détermination ni désir d'accomplissement, voilà qui pourrait remplacer l'action, l'accomplissement et remplir effectivement la promesse de la logique dialectique, la réactivation de ses propres origines. De toutes les notions abstraites, aucune ne se rapproche autant de l'utopie réalisée que celle de paix éternelle. Je vous remercie.